Nous allons continuer à parler de la semaine du cerveau avec aujourd'hui le docteur Lucie Barateau. Bonjour docteur Lucie Barateau.
Bonjour.
Voilà, donc vous travaillez à l'unité des troubles du sommeil et de l'éveil au sein du CHU de Montpellier. Je n'ai rien raté, c'est bien comme ça que ça s'appelle.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, et donc vous allez être au cœur d'une table ronde sur le sommeil, rythme et environnement, l'équilibre fragile de nos nuits. Alors, on peut dire que c'est un événement qui s'inscrit doublement dans des manifestations, parce que c'est la semaine du cerveau, mais c'est aussi la journée du sommeil. Alors, quelles sont les activités, en fait, de cette unité des troubles du sommeil et de l'éveil?
Alors, c'est une unité extrêmement importante puisqu'on a donc 8 lits pour enregistrer et faire le bilan des patients qui ont des troubles du sommeil et de l'éveil, bien sûr. Donc, on va pouvoir voir les patients en consultation et ensuite enregistrer, analyser leur sommeil de nuit et leur vigilance la journée pour essayer d'identifier certains troubles, certaines maladies du sommeil, par exemple, et ensuite les traiter. Et on a une grosse activité qui est à la fois de clinique, mais aussi de recherche. Donc le CHU de Montpellier est un des centres du sommeil à la pointe en France et en Europe pour la recherche dans le domaine des maladies du sommeil.
Alors, on parle de troubles du sommeil, alors ça recouvre quoi? Parce que j'imagine qu'il y a un tas de choses différentes, hein, depuis l'apnée du sommeil, au syndrome des jambes sans repos, des choses comme ça, et puis des hypersomnies. Alors, quelles sont les principales pathologies sur lesquelles vous travaillez?
Alors, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents en population générale et parmi les plus fréquentes maladies du sommeil, on a l'insomnie, bien sûr, donc les gens qui n'arrivent pas à s'endormir ou à maintenir le sommeil ou qui se réveillent trop tôt le matin. Donc ça, c'est par argument de fréquence, c'est vraiment parmi les maladies les plus fréquentes. Après, à Montpellier, on est spécialisé dans l'hypersomnie. Donc on va avoir beaucoup de patients qui ont, à l'inverse, trop de sommeil. Ils dorment trop la nuit ou ils n'arrivent pas à maintenir une vigilance normale la journée. Ils s'endorment brusquement sans le vouloir. Donc ça, c'est des maladies comme la narcolepsie. Et ensuite, effectivement, vous avez cité le syndrome des jambes sans repos, qui est une maladie neurologique où les patients ont des douleurs dans les jambes le soir et la nuit qui les obligent à bouger et qui les empêche d'avoir un sommeil réparateur et de s'endormir facilement. Et enfin, l'apnée du sommeil, qui est une maladie très fréquente et dont on parle de plus en plus, où on a des pauses respiratoires pendant le sommeil, à intervalles plus ou moins réguliers, ce qui va fragmenter le sommeil de nuit et donner un sommeil de mauvaise qualité.
Alors, vous dites sommeil de mauvaise qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un sommeil de bonne qualité ou un sommeil de mauvaise qualité?
Vaste question. Alors, un sommeil de bonne qualité, bah, déjà, il y a la perception du patient qui est très, très importante. La perception de la personne, est-ce que on a l'impression d'avoir bien ou mal dormi? C'est une première question. Ensuite, l'environnement compte énormément, et c'est d'ailleurs la thématique de cette année, hein, l'environnement qui influence la qualité du sommeil. Donc, par exemple, il faut avoir pour avoir une bonne qualité de sommeil, il faut dormir dans une chambre sombre. Donc, il ne faut pas avoir de lumière, des lumières allumées, des écrans à côté du lit. Il faut avoir une température acceptable, donc ni trop chaud ni trop froid, entre 18 et 22 degrés. Il faut avoir une literie confortable, bien sûr. Donc, ces facteurs de l'environnement vont influencer la qualité de sommeil. Et puis après, il y a l'hygiène de sommeil, donc ne pas se coucher trop tard, faire des repas trop tardifs, utiliser les écrans, encore une fois, le soir et la nuit. Et puis évidemment, tout ce qui est toxique, alcool, etc., café aussi. Toutes ces substances qui peuvent avoir un effet sur l'architecture et la qualité du sommeil. Et enfin, bien sûr, les pathologies du sommeil, mais là, on parle de choses qu'on doit traiter en tant que médecin et où on ne peut pas faire grand-chose en tant que patient tout seul. Mais l'hygiène du sommeil peut tout à fait être comment dire, excusez-moi, je trouve pas les mots, d'hygiène du sommeil, ça dépend des patients eux-mêmes et des personnes, et ça, on peut agir dessus pour améliorer la qualité de son sommeil.
Alors, là, quand vous évoquez ça, bon, on comprend, mais on se dit, bon, une mauvaise nuit, et puis je me rattraperai la nuit prochaine. On a des conséquences du quotidien, on va dire de la fatigue, de la lassitude. Mais cliniquement, de façon plus sérieuse, entre guillemets, c'est quoi les conséquences d'un sommeil mauvais?
Alors, c'est une question très importante et très intéressante. Il y a beaucoup de recherches en médecine du sommeil pour avoir, pour connaître les conséquences d'une mauvaise qualité de sommeil. La première chose à savoir, c'est que la plus mauvaise qualité de sommeil, enfin, la pire chose qu'on puisse faire, c'est se priver de sommeil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît très bien et qu'il ne faut pas faire. C'est la privation de sommeil volontaire, c'est-à-dire raccourcir son temps de sommeil de façon volontaire pour justement se coucher tard, comme je disais tout à l'heure, utiliser des écrans, regarder des films, sortir jusqu'à pas d'heure. Donc la privation de sommeil, c'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire. Et les conséquences cliniques, elles sont très bien connues. Donc il y a une diminution très nette des performances, tant physique qu'intellectuelle, donc physique et cognitive. Donc on n'a pas les mêmes qualités d'activité au niveau intellectuel et de concentration quand on est privé de sommeil. Et ensuite, ce qui est très bien connu également, c'est les risques cardiovasculaires et notamment la régulation du glucose, donc le sucre dans le sang, donc tout ce qui est d'ordre du diabète. Et tout ce qui est le risque cardiovasculaire au sens large, donc l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, sont très nettement augmentées en cas de mauvaise qualité de sommeil et en particulier de privation de sommeil au long cours.
Est-ce qu'il y a des risques de pathologie qui se surajoutent à un mauvais sommeil? Là, vous évoquez tous les baisses de performance ou des choses comme ça, mais est-ce que ça peut entraîner ou favoriser l'apparition, la prévalence d'autres pathologies?
Oui, c'est ce que je vous disais exactement. Ce qui est le plus connu, c'est l'apparition des maladies cardiovasculaires.
Ouais, voilà.
Et donc ça, c'est vrai aussi pour... Donc j'ai parlé de privation de sommeil, mais il y a également l'apnée du sommeil, qui est donc cette maladie où on a des pauses respiratoires pendant la nuit, où le taux d'oxygène dans le sang baisse de façon transitoire. Et on a donc comme une sorte de stress finalement pour l'organisme et pour les artères, pour le cœur, et donc in fine le développement de maladies cardiovasculaires. Donc vraiment diabète, hypertension et maladies cardiovasculaires sont directement liées à un mauvais sommeil de nuit et une privation de sommeil.